With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
2,21 chinois. Mon Dieu!
Recherche, scanner.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Éteignez ce feu, son pote, c'est un
pic. Oh, je te remercie, de la cendre sur mes tomates.
Les cloches ne sonnent plus. La cathédrale, sais-tu?
L'on dit que c'est l'âme de Paris qui s'enflamme quand sonne les cloches de Notre-Dame.
Il n'a fallu qu'une soirée pour que Notre-Dame devienne notre drame. Les 15 et 16 avril 2019, un incendie a ravagé les combles et menacé de dévorer toute la cathédrale. Contemplée depuis les bords de Seine ou vue en boucle à la télévision, on a tous en tête les images de l'effondrement de la flèche et des panaches de fumée qui s'élevaient de la charpente de l'édifice. Notre-Dame a heureusement survécu, de même que sa superbe rosace et ses vitraux. Un an a passé et si un silence de cathédrale règne toujours sur place, ce n'est pas parce que le bâtiment est toujours interdit au public, mais à cause du confinement qui fait que même les équipes en charge de sa restauration ont dû se retirer. Comme elle, nous sommes passés en télétravail, cet épisode de 6ème Science est donc le premier enregistré depuis mon salon et non dans notre super studio de 20 minutes. Spoiler alerte, vous devriez entendre assez vite la différence, j'espère cependant que ça fera l'affaire. Je m'excuse aussi auprès de notre invité du jour, Arnaud de Villard, à qui revient la lourde tâche d'essuyer les plâtres de l'enregistrement à distance. En même temps, qui mieux que lui aurait pu jouer les cobayes? Data, IA, réalité virtuelle, réalité mixte, tu es l'un des experts high-tech de la rédaction de Science et Avenir. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Alors, on est exactement, peu ou prou, un an après l'incendie du 15 et 16 avril 2019 qui a ravagé une bonne partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Dans quel état est la cathédrale aujourd'hui par rapport au lendemain de l'incendie?
Alors, évidemment, tout ce qui a été détruit est toujours détruit, hein. C'est bon de le préciser, mais il n'y a rien qui a été reconstruit déjà, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour soutenir, empêcher que d'autres bouts s'effondrent, donc il y a des étais sur les arcs-boutants pour pas qu'ils s'écroulent, il y a des filets de protection pour empêcher que des morceaux des façades tombent, notamment en bas sur les gens ou les ouvriers, il y a des vitraux, la plupart des vitraux qui ont été déposés, c'est-à-dire qu'on les a enlevés, ils sont pas forcément en mauvais état, mais c'est au cas où pour les surveiller, regarder ce qu'il y a eu de...
Les nettoyer aussi, j'imagine.
Essentiellement pour les nettoyer, effectivement. C'était essentiellement pour les nettoyer.
Tu disais dans ton article, je crois qu'il y a une grue quand même. Hein. Enfin, en gros, si aujourd'hui on va voir... Enfin, non, on a l'interdiction d'y aller, mais...
Ouais, il y a une grue qui a été installée. Tout le bâtiment est évidemment ceinturé d'une cloison en travaux. Il est inaccessible, donc il y a ça aussi qui a changé. C'est qu'on ne peut plus aller sur le parvis, par exemple. On ne peut faire le tour de la cathédrale qu'en faisant le tour d'une enceinte de palissade de chantier. Et il y a une énorme grue de plus de 90 mètres qui surplombe effectivement la cathédrale à l'origine pour enlever l'échafaudage. C'était les derniers travaux qui venaient d'être amorcés avant le confinement. C'est retirer ce fameux échafaudage.
C'est peut-être la question la plus importante et je ne suis pas sûr qu'on ait une réponse, mais est-ce qu'on en sait plus sur les causes de l'incendie survenu, donc on l'a dit, le 15 avril 2019?
On ne sait toujours pas. Il y a eu plusieurs pistes qui ont été lancé, mais l'enquête est toujours en cours et non, on ne sait pas. Alors, c'est vrai qu'assez vite, on a essayé de chercher des coupables. Hein. Chaque piste s'est un peu dégonflée, donc non, on ne sait pas.
Ok, bon, alors on passe à la question suivante. Est-ce que tu peux nous faire un petit check-up de l'état du bâtiment? Qu'est-ce qui a disparu irrévocablement et qu'est-ce qui a été préservé en sachant, bah, voilà, est-ce que toi-même, tu as pu de tes yeux voir dans quel état était la cathédrale?
Alors, ce qui est effectivement surprenant quand on sait qu'on a lu tout ce qu'on a lu sur les ravages de la cathédrale, c'est que quand on arrive face au parvis, enfin même s'il est bloqué, on a quand même une vue en recul du fronton, et c'est encore très chouette. Vous avez la rosace centrale, les deux tours, tout ça c'est intact, le portail, donc tout ça c'est intact. Mais effectivement, dès que vous tournez, alors la flèche a disparu, le toit a intégralement disparu, la charpente a intégralement disparu. On le voit pas d'en bas, mais la voûte s'est effondrée à plusieurs endroits. Donc tout ça, voilà, c'est tout ça c'est parti. C'est tout ça c'est à refaire. La flèche, le toit, la charpente, c'est les deux gros enjeux. Donc ça c'est ce qu'on voit dans les dommages. Et après il y a tout ce qu'on voit pas et qui fait partie justement des travaux qui ont été engagés assez vite. C'est savoir dans quelle mesure la cathédrale présente des fragilités, où elle a été fragilisée.
Okay.
Juste pour comprendre, c'est que la mesure où un édifice comme ça, ancien en plus, le toit disparaît, tout le poids de la charpente disparaît, la flèche, donc ça déséquilibre intégralement la structure. Tout l'équilibre des forces, la pression verticale, horizontale, latérale, qui était parfaitement calculé jusque-là, vous enlevez un des éléments, à savoir le toit, et le poids qui pesait sur l'édifice, ça déséquilibre tout. Donc tout ça, c'est à revoir.
Et ça, on ne voit pas du tout. Enfin,
on ne voit pas, exactement.
Ouais, c'est ça, c'est quand on regarde les photos, on a l'impression que la structure a été préservée. Mais exactement. Toi, tu dis qu'elle menace de s'écrouler, quoi.
Oui, il y a des chercheurs qui disent que le danger n'est pas écarté, que certains bouts s'écroulent, parce qu'il y a effectivement ce déséquilibre, plus l'effet combiné de la chaleur intense, on parle de 800 degrés, du feu, combiné à tout d'un coup l'eau des lances incendies.
Ouais, le choc thermique, quoi, chaud-froid.
Le choc thermique qui, d'un côté, peut fragiliser la pierre, la lézarder, affaiblir l'intérieur même de la structure de la pierre. Et aussi, comme certains chercheurs l'expliquent, c'est que c'est de la pierre calcaire. Et donc, chaleur plus humidité, ça crée de la chaux, tout simplement. La pierre s'effrite. Donc, c'est tout ça qui a surveillé. Où est-ce que c'est fragilisé? Plus le mortier. Donc, tout ça est toujours en cours de diagnostic. La cathédrale est, même si c'est en suspens, en état de diagnostic. C'est ce que tous les chercheurs, tous les gens qui travaillaient en ce moment, était en train de faire, c'est à la fois déblayer et établir le diagnostic de la structure.
On l'appelle Notre-Dame des courants d'air.
Alors, tout à l'heure, tu as évoqué rapidement la question donc des échafaudages, parce que au moment de l'incendie, la cathédrale était déjà entourée en partie d'échafaudages, et le problème, c'est que ces échafaudages, ils ont pris feu, et j'imagine du coup qu'il faut pouvoir gérer aujourd'hui tout ce qui a pu tomber de ce côté-là.
C'est un énorme échafaudage qui avait été mis en place pour rénover la flèche. Donc, il était disposé autour de la flèche. Les flammes ne l'ont pas emporté, l'échafaudage. C'est parce que l'échafaudage était fixé non pas sur la flèche, justement, il était fixé sur la croisée du transept, sur le transept et la nef. Donc, ce qui fait que quand la flèche s'est elle-même effondrée, elle n'a pas entraîné l'échafaudage avec elle. C'est à ça qu'on doit le fait que tout ne s'est pas écroulé d'un coup. Parce que si l'échafaudage avait été accroché à la flèche, alors là, tout partait, quoi. Le toit, toutes les voûtes, tout s'effondrait, quoi.
Ouais, on a eu du bol dans notre malheur.
Ah ouais, c'est exactement ça. Donc l'échafaudage, il est là. Il est comme un moule qui est resté et l'objet moulé, lui, a disparu. Donc il est là et une des premières étapes de la rénovation de la cathédrale, c'était retirer cet échafaudage et c'est ce qui était en cours avec la grue de 90 mètres qui était de retirer cet échafaudage qu'il faut savoir, c'est un espèce de micado invraisemblable de 500 tonnes, il y a 500 000 cubes d'acier qui sont comme ça entreposés. Alors ceux qui étaient le plus près de la flèche et du brasier ont fondu, sont distordus, ont été soudés entre eux. Et donc, ce que devaient faire les ouvriers, qui en fait sont ceux qui ont posé l'échafaudage, ils ont posé un deuxième échafaudage autour du premier échafaudage, ce qui a déjà été assez long. Et à partir de là, ils devaient monter sur cet échafaudage pour ensuite scier des morceaux, découper des morceaux, des portions de l'échafaudage de rénovation qui allaient être ensuite retirés par la grue et déposés à terre. En soi, c'était un chantier dans le chantier, le retrait de l'échafaudage.
Juste pour la précision, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est exactement le transept, enfin, pour qu'on se repère un petit peu dans la cathédrale?
C'est cette partie dans une cathédrale et une église même qui est perpendiculaire au corps principal de l'église, à la nef. Okay. C'est ce qui forme une croix. C'est en fait une église, hein, vue de haut, c'est une croix. Et donc c'est la partie perpendiculaire, on va dire horizontale, comme on regarde sur un plan.
Alors tu as utilisé un autre terme qui était assez important. On est quasiment là avec des médecins qui sont en train d'ausculter Notre-Dame de Paris. C'est le terme de diagnostic. Comment on fait un diagnostic sur un monument aussi incroyable et immense qu'une cathédrale?
C'est très compliqué. Il y a plein de choses à faire. Là, c'est le laboratoire de recherche des monuments historiques qui pilote ça avec le ministère de la Culture et la DRAC aussi, Direction régionale des affaires culturelles. Donc, c'est eux qui font la plupart des analyses de la pierre, du bois, des vitraux. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la toute première chose qui a été faite, c'est que 4 jours après l'incendie, une société spécialisée dans le scan 3D de monuments historiques, justement, d'éléments de patrimoine, sont venus relever au scanner, faire ce qu'on appelle un nuage de points de l'édifice pour avoir un modèle en 3D de la cathédrale, pour avoir toutes les dimensions. Donc, ça n'avait jamais été fait. Il n'y a que des parties, mais là, intérieur, extérieur, donc toute la cathédrale déjà. Et ça, c'est une première étape pour établir le diagnostic, voir qu'est-ce qui a été déplacé, où est-ce qu'il y a des déséquilibres, où est-ce qu'il y a des écarts dans les mesures, dans les distances. dans la profondeur de certains matériaux. Donc ça, c'est la première étape. Et après, il y a des analyses chimiques externes, donc du bois, de la pierre. Tout ce qui s'est passé en premier temps, c'était le déblaiement de la cathédrale. Il a fallu déblayer tout ce qui est tombé dans la nef, les débris, ce qu'on a là. Mais en fait, qui ne sont pas des débris, c'est-à-dire qu'on les jette pas. Tout a été gardé, même la cendre. Tout a été gardé. C'est même sur le il y a une partie qui est entreposée sur le parvis, la cendre notamment, et dans des grands sacs hermétiques sous des chapiteaux. Tous les morceaux de charbon, de tout ce que vous voulez, est gardé précieusement et pour analyse. Et notamment pour les morceaux de bois, donc de la charpente, mais de la pierre aussi, c'est l'humidité. Donc savoir où on en est de l'humidité de la pierre et du bois. Enfin de la pierre surtout. Donc en fait, il y a des éléments de pierre qui sont dans les labos de recherche des monuments historiques et ils regardent en combien de temps l'eau disparaît de la pierre. Très concrètement, on pose une pierre et on regarde en combien de temps, 5 mois, 6 mois, quelle est la courbe d'évolution de l'évaporation de l'eau. Enfin, tout ça, c'est regardé pour ensuite savoir à quoi il faut s'attendre quand on va s'attaquer aux travaux. C'est-à-dire que même quand on va commencer de la rénover, peut-être que la pierre sera encore un peu humide, donc il y aura des capteurs. Donc essayer de savoir dans combien de temps on peut imaginer que la cathédrale sera définitivement épargnée de tous les petits parasites, tous les problèmes qu'elle a subis. Parce que là, je parle de l'eau, je parle de la cendre, il y a aussi des problèmes de moisissure, parce que la cathédrale...
Elle
est gorgée d'eau. Donc du coup, si elle est gorgée d'eau, ça veut dire qu'il peut se mettre des bactéries. Donc si on referme trop tôt la voûte, par exemple, on peut favoriser le développement de ces bactéries grâce à la chaleur. Parce qu'en ce moment, paradoxalement, le fait qu'elle soit ouverte, pas à tous les vents, mais presque, il y a un courant d'air qui se fait dans la cathédrale. Donc ça aide à l'évaporation, le trou dans la voûte, par exemple.
J'étais persuadé qu'elle avait été bâchée, tu vois.
Alors elle est bâchée, oui, j'ai oublié de préciser. C'était la première chose qu'ils ont faite, c'était la bâcher pour la protéger des intempéries, quoi, tout simplement. Avant même les étés, c'est la bâche qui a été posée. Donc elle est posée sur le toit, voilà. Mais quand même, il y a quand même un courant d'air qui s'est fait. Mais si on bouge, il y aura des moisissures, un risque en tout cas. Donc il y a toutes ces choses là qui sont à surveiller.
Ouais, et qui rongent la cathédrale de l'intérieur, quoi.
C'est des choses qu'on ne voit pas encore une fois. Ils sont microscopiques, ils ont des évolutions lentes. Donc il y a tout un travail sur le temps aussi qui va devoir se faire au-delà même de la reconstruction.
Sachant que au lendemain de l'incendie, Emmanuel Macron s'est engagé en quelque sorte à dire la restauration de la cathédrale devra se faire en 5 ans. Bon, maintenant il y a le confinement qui doit, j'imagine, jouer. Mais toi, c'est un délai qui te semblait raisonnable et jouable?
Alors moi personnellement, je sais pas. Parce que, vu tout ce qu'il y a à faire, ça m'étonnait, mais. Enfin, il y a des avis vraiment très différents. Okay. Moi, j'ai eu des chercheurs qui m'ont dit oui, c'est possible. D'autres qui m'ont dit mais non, c'est invraisemblable. Mais par contre, voilà, comme vous disiez, c'est un délai impératif. C'est pas le président Macron qui a dit moi j'aimerais bien. C'est dans l'esprit de ceux qui encadrent un peu le chantier, c'est 5 ans.
Oui, c'est pas le BTP classique. On peut se dire plus ou moins 6 mois, quoi.
C'est ça. Le général Georges Hain, d'ailleurs, on m'a même dit entre pas demi-mots que c'est pas un hasard si on a mis un militaire à la tête de l'établissement public.
Je veux que chaque pierre soit dessertée au burin à froid et recollée au mortier de chaux et de sable marin comme en utilisaient les bâtisseurs de cathédrales.
Mais alors justement, qui gère ces travaux? Tout à l'heure, tu parlais d'un laboratoire, mais qui mène des recherches sur l'état de la cathédrale, etc. Mais qui est l'entité qui organise?
L'entité, effectivement, a été créée spécialement, c'est l'établissement public pour la rénovation de Notre-Dame de Paris, officiellement qui est entré en service fin 2019, qui regroupe les architectes, pour résumer, les chefs de travaux, les chefs de chantier, et à la tête duquel a été mis le général Georges Hain, qui pilote tout ça, quoi, qui rend compte aux autorités, dont le rôle est de faire en sorte notamment que le fameux délai des 5 ans soit respecté. Mais effectivement, le confinement arrivant par-dessus, là, on ne sait pas trop ce qui va en être.
Et du coup, là, aujourd'hui, le chantier, il est totalement à l'arrêt?
Il est à l'arrêt, à un jour où il n'y a personne sur place. Mais ils ont mis en place des un peu comme dans certaines entreprises, nous y compris,
idem.
Du travail à distance, du télétravail, quoi, avec ce qui est possible de faire grâce aux outils numériques. On peut continuer certains travaux, quoi, des rapports, peut-être des analyses qui sont possibles. Il y a beaucoup de choses qui ont été numérisées. Hein. Il y a des éléments parmi justement les débris, les restes qui sont tombés. Il y a des choses qui ont été numérisées, donc on peut travailler dessus, quoi.
Oui, c'est c'est-à-dire éventuellement modeler, se dire il y a des pierres qu'il va falloir tailler de telle façon pour remplacer, ce genre de choses.
Oui, un des travaux, par exemple, c'était de numéroter les pierres. Les éléments, savoir à quel endroit ils allaient aller sur la future cathédrale en construction, comme un puzzle, si vous voulez. Donc, il y a tout ce travail aussi qui était en cours. Concrètement, on imagine qu'il récupère un bout de voûtin par terre, et hop, il faut tout de suite savoir où est-ce qu'il va, à quel endroit, donc il était numéroté. Donc, tout ça, ça a été numérisé pour faire un pour avoir une espèce de modèle 3D numérique.
Alors moi, c'est un des trucs qui m'ont étonné en lisant le dossier, c'est que je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit toi qui traite ce dossier, parce que tu es un des experts high-tech, on l'a dit tout à l'heure, de la rédaction de Sciences et Avenir. Et bon, depuis tout à l'heure, tu parles de numérisation, donc j'imagine que c'est ça les aspects high-tech de cette restauration.
Oui, alors après, il y avait deux éléments. Il y avait cet aspect-là, parce que moi, j'avais travaillé, j'avais déjà fait des articles sur les sociétés qui se sont chargées des aspects de numérisation. Mais c'était aussi, je m'intéressais, hein, personnellement, dessus ce chantier, tout ça. Donc, c'est pas forcément un angle high-tech à chaque fois, mais il y en a. Mais je ne suis pas tout seul. Il y a ma collègue, une collègue Marine Benoît, qui suit aussi ça, qui a fait des très, très amples papiers sur les recherches justement scientifiques en cours autour du chantier. Donc, il y a pas mal d'aspects. Reconstruction, recherche scientifique, il y a beaucoup de choses qui se croisent à Notre-Dame.
Tu m'as tendu la perche, voilà. que j'attendais, hein. C'est l'autre surprise que j'ai eue en lisant ton article, c'est que en fait, si jamais on se faufile, alors évidemment j'encourage personne à le faire, mais dans Notre-Dame, hors période de confinement, parce que du coup là il n'y a vraiment personne, mais si on y était allé par exemple début mars, on aurait eu autant de chances d'y croiser des spécialistes des travaux publics que des scientifiques, c'est-à-dire des archéologues, des historiens, des mécaniciens du bois, des biochimistes, des charpentiers. Qu'est-ce qu'ils font là tous ces scientifiques ?
Assez vite, genre, mais dès le lendemain, les scientifiques se sont mobilisés autour de cet incendie, enfin des dégâts qui ont été causés, à la fois pour savoir comment on allait la rénover, mais aussi parce que la cathédrale en elle-même, c'est une immense base de données scientifiques, d'éléments architecturaux, d'éléments sur le bois, sur l'histoire, l'architecture, l'histoire de l'exploitation du bois, d'autant plus qu'il n'y a aucun document. Il n'y a pas de plan de la cathédrale, il n'y a pas quelque part quelqu'un qui a expliqué comment elle allait être construite. Donc tout ce qu'on sait sur la cathédrale, c'est dans la cathédrale.
Ouais.
Et donc du coup, c'était l'occasion pour les scientifiques d'en savoir un peu plus. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y avait cet immense chantier qui allait s'ouvrir et ils pouvaient apporter leurs connaissances sur la pierre, sur le bois, sur la façon de faire une charpente, et en même temps eux-mêmes récupérer de nouvelles informations, parce que comme l'a dit un chercheur dans certains de nos articles, c'est que à chaque fois qu'on a entrepris des travaux dans la cathédrale, que ce soit de rénovation, de recherche, on a découvert quelque chose.
Ouais.
Donc ce chantier de rénovation sera inévitablement l'occasion de découvrir de nouvelles choses. Donc effectivement, mais il y a des choses très très loin de l'architecture, il y a des choses même sur l'anthropologie. Comment s'organiser un chantier à l'époque, il y a des chercheurs là-dessus.
Mais ça, tu peux le savoir en auscultant la cathédrale.
Oui, on peut le savoir en sculptant la cathédrale, en regardant les pierres, par exemple. On peut repérer qu'à tel endroit de la cathédrale, il y a eu un changement d'équipe, ou que les pierres viennent pas du même endroit, ou le bois ne vient pas du même endroit. On peut savoir, même dans les restes de bois, on peut savoir que tel morceau de charpente et tel autre morceau de charpente viennent de la même forêt, mais qu'un tel autre morceau de charpente vient d'une autre forêt, qui n'était pas exploité de la même manière. Tout ça, on peut le faire. Le bois retient plein d'informations sur son environnement écologique, sur la manière dont il était cultivé. Est-ce que c'était une forêt dense, une forêt clairsemée? Est-ce que c'était un bois jeune, un bois vieux? Tout ça, toutes ces infos, on peut les retrouver, y compris dans les restes, en fait, dans les restes calcinés.
Et ces recherches, est-ce qu'elles ont un potentiel apport pour justement guider éventuellement les équipes d'ouvriers et compagnie?
Oui, bien sûr, déjà, parce que ça peut aider à retrouver des matériaux similaires, similaires à ceux d'origine. Ça peut aider aussi à savoir comment elle a été construite, la cathédrale, et donc du coup à essayer de la refaire de la même manière, en tout cas au niveau de la pierre. Donc oui, il y a beaucoup de... Et aussi la résistance, comment a été assemblée, tout simplement, la structure. Donc ça, on peut essayer de le retrouver... Alors peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à organiser le chantier de la même manière qu'il l'était.
J'espère pas.
Mais on peut, oui, bien sûr, le but est aussi que ça aide. Enfin, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect recherche scientifique pure et l'aspect aide au chantier, quoi. Tout ça est entremêlé. D'ailleurs, il faut savoir que les chercheurs qui sont là pour la recherche scientifique, hein, qui est organisée par le CNRS notamment, CNRS et le ministère de la Culture, c'est eux qui chapeautent l'aspect scientifique de tout ça. Ces scientifiques, ils assistaient aux réunions de chantier toutes les semaines avec les gens qui faisaient les travaux, les déblaiements. Tout ça est une vaste collaboration d'un peu tout le monde.
En marge de ça, est-ce qu'il a été décidé quelque chose sur le look que pourrait avoir la cathédrale dans 4 ou 5 ans? Enfin, on peut ou prou, hein, on va pas se fixer d'horizon. Est-ce qu'on remet une flèche? Est-ce qu'on met un toit en verre? Enfin, je sais pas.
Là, on s'est pas tranché, effectivement. Chacun a son avis. Ni sur la flèche, ni sur l'allure du toit, ni sur le matériau qui peut être utilisé pour la charpente. On a eu plein de versions, hein, la charpente. Au tout début, on disait que c'était impossible de la faire en bois de la même manière. Et puis ensuite, on a compris qu'on avait assez de bois en France. Puis il s'avère que peut-être, finalement, c'est la pierre qui risque de manquer en France. Ou alors, il faudrait réouvrir des carrières qui ne sont plus exploitées. Tout ça, on ne sait pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le diagnostic qui est en train d'être fait peut servir à guider les choix architecturaux futurs. C'est-à-dire que le diagnostic pour le laboratoire des monuments historiques va rendre un document. Il a été censé rendre un document en septembre prochain, avec toutes les données qu'ils ont récupérées sur l'état de la cathédrale. Le laboratoire, il va pas dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire une flèche, il faut pas faire une flèche, il faut faire un nouveau toit, il faut mettre du béton pour la charpente ou du bois. Ça, il va pas dire du tout. Il va juste donner ses données. Qu'est-ce qui résiste, à quoi, à quelle pression, dans quel état est la cathédrale, qu'est-ce qu'il faut refaire. À partir de quoi, les architectes ou l'architecte en chef se prononcera et dira, ben, vu ce que j'ai comme données, on va plutôt faire comme ça. Vu ce que j'ai comme données, on peut pas faire telle chose, on peut plutôt faire une autre chose. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer.
Idée fixe, je te confie la garde du chantier. Ouvre l'œil.
Alors, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, enfin, un moment, tu as évoqué le nettoyage de la cathédrale, mais c'est vrai que c'est un point qui a beaucoup occupé l'opinion publique les jours qui ont suivi l'incendie. C'était la question du plomb. Avec les chaleurs, il y a énormément de plomb qui s'est dégagé, qui a été déposé sur la cathédrale, enfin, à l'intérieur, mais aussi aux alentours. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux sur cette question du plomb ?
Oui, oui, c'était aussi un des points de polémique qui a eu lieu, parce que pendant quelques temps, les autorités ont un peu nié ce problème, notamment à cause des écoles, dans les rues vraiment limitrophes, c'était surtout les écoles qui inquiétaient. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un dépôt de plomb notable. Alors après, c'est toujours difficile de savoir est-ce que c'est un dépôt endémique à la ville. Bon, ce qui est sûr, c'est que sur le parvis, la cathédrale, c'était évidemment la toiture et les peintures qui ont disséminé des tonnes de plomb sous forme de poussière. Donc, il y a eu tout un chantier de décontamination. Ça, c'était l'été 2019, à partir du début août. Le chantier a été entièrement fermé. La cathédrale a été fermée une première fois. Personne ne rentrait sur le chantier. On a décontaminé les écoles, le parvis, des rues, des ponts autour de la cathédrale, avec des techniques assez élaborées. Et ensuite, on a rouvert le chantier, sauf qu'il y a tout un protocole maintenant. Enfin, à partir de fin août, un protocole a été mis en place qui a beaucoup ralenti le chantier. On ne rentre plus comme ça sur le chantier. Il y a des SAS, des gens qui travaillent sur le chantier, chercheurs, ouvriers ou qui que ce soit. Combinaison, lavage intégral à la sortie. Il y a des SAS, on a des chaussures et des casques spéciaux. Le CNRS a dû investir une partie de son budget dans l'équipement et la formation de ces scientifiques. Ça s'appelle le protocole plan. C'est imposé à tout le monde et pour certains, ça a beaucoup retardé les opérations.
Oui, donc, ça dosera peut-être avec le Covid-19. Ça leur servira peut-être aussi à cette occasion-là.
Peut-être, oui, c'est très possible qu'effectivement des réflexes aient été pris et que pour le coup, ça sera peut-être presque transparent de respecter certains protocoles Covid ou plomb. Voilà, c'est pas les mêmes problèmes, mais il y aura peut-être les mêmes procédures à respecter.
Alors, j'ai une dernière question, mais qui est plutôt de l'ordre personnel. Ton article est titré, je crois, sur le côté un chantier multiforme. Est-ce que toi, tu t'attendais au moment de t'intéresser à justement à toute l'entreprise de rénovation et de restauration de Notre-Dame à quelque chose avec autant d'enjeux et de savoir-faire mobilisés différents?
Alors moi non, je pensais pas. Notamment tout ce volet scientifique m'avait un peu échappé au départ. Enfin, j'imaginais pas qu'il y aurait une telle, on va dire, ruée, on va dire, un tel enjeu. C'est parce que aussi je savais pas aussi à quel point la cathédrale elle-même était une base de données, une ressource historique, une ressource de connaissances en elle-même, à savoir qu'il y avait pas beaucoup d'autres choses sur elle que le bâtiment. Donc ça, je m'y attendais pas. L'aspect numérique, j'y ai pensé tout de suite, vu les sujets que je suis. Mais c'est vrai que c'est, voilà, qu'il y ait autant d'angles, voilà, comme ça, que journalistiquement, c'est un trésor, ce chantier, parce qu'il y avait vraiment des tas de angles d'attaque différents. Mais non, je ne m'attendais pas à que ça soit. Bon, évidemment, en plus, il y a le plomb par-dessus, où je ne me rendais pas compte. L'histoire de l'échafaudage, on se doutait bien que ça allait être
problématique.
Mais quand j'ai vu l'ampleur que ça prenait, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas figuré assez la chose. Donc oui, on en apprend tous les jours. Voilà. C'est le genre de sujet, on en apprend tous les jours.
Fin de la visite. Sachant que la moitié de l'humanité est cloîtrée chez elle, parcourir les entrailles d'un monument classé patrimoine mondial de l'UNESCO, rappelons-le, hein, et fermé au public depuis un an, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour poursuivre l'exploration de Notre-Dame et vous aérer les idées sans déroger au confinement, évidemment, rendez-vous prudemment chez votre libraire pour y dégoter le numéro d'avril 2020 de Science et Avenir. Vous pouvez aussi le lire en ligne, c'est moins risqué. Arnaud, merci beaucoup d'avoir été notre guide aujourd'hui. Je te propose qu'on refasse un point dans un an ou deux sur l'avancée des travaux. Étant donné le périmètre de ton savoir qui s'étend, on l'a dit, de la data à l'IA en passant par la réalité virtuelle et la réalité mixte, on devrait avoir pas mal d'occasions d'enregistrer d'ici là. Malgré un petit retard à l'allumage, 6ème Science va continuer à essayer de maintenir son rythme de production bimensuel. Attendez-vous donc à entendre parler de nous dans les prochaines semaines. Et en tout cas, de votre côté, si vous avez un peu de temps devant vous, nos précédents épisodes n'attendent que vos oreilles pour se mettre à streamer. Partagez-les et parlez de nous à vos camarades de confinement. Toute publicité est bonne à prendre. À dans 2 semaines et n'oubliez pas, on envoie la science dans tous les sens.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.